Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous chers amis, bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de ses invités entrepreneurs. Mais avant ça, place aux voix de l'emploi. Vous les entendez presque arriver dans le studio de Sud Radio. Christine Bié et Yves de Risbourg sont présents ce soir jusqu'à 19h30. Toutes vos questions sur votre carrière professionnelle ou décrocher du travail, justement, ça se passe au 0826 300 300. Ils répondront à vos messages jusqu'à 19h30. Ils vous présentent aussi les bonnes opportunités, pourquoi pas, tiens, le bon poste du jour, tenez-vous bien, coach de chatbot, qu'est-ce que c'est? On en parle dans un instant, à tout de suite.
En partenariat avec Lidl.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Christine Bié, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi.
Bonsoir à tous, 19h passé de 7 minutes, ce sera vrai dans 6 secondes sur Sud Radio et partout en France. Bonjour à tous, bonjour Christine Bié.
Bonjour Yves de Risbourg.
Vous allez bien?
Très bien, au taquet.
Prête pour cette nouvelle émission des Voix de l'Emploi?
Mais évidemment.
Où on retrouvera nos auditeurs bien sûr au 0826 300 300 avec toutes les questions qu'ils se posent et puis qu'ils nous posent et auxquelles on va tenter de répondre, bien entendu. On les retrouvera dans, on vous rappellera, on les retrouvera dans la bonne voie. On parlera du bon poste du jour, mais ça il a déjà été un petit peu dévoilé par Jean-Marie Bordry, ça, comme d'habitude. Et puis bien entendu, un invité, une invitée ce soir, que je vous laisse ce soir de nous présenter, Christine.
Oui, exactement, c'est une invitée et il s'agit de Valérie Sablé, qui est la directrice recrutement de Kerus. Alors Kerus est une ESN qui a été fondée en 1996 et elle est spécialisée dans les domaines du cloud computing, des mégadonnées, de l'informatique décisionnelle et de la stratégie omnicanale, tout un programme.
Voilà, maintenant on va faire lire tout ça en français. Valérie Sablé, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, quand vous êtes à un dîner avec des amis, vous leur expliquez quoi, comment?
Alors, ce qu'on leur explique, c'est que on accompagne vraiment nos clients sur l'ensemble de la transformation digitale. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière la transformation digitale? Parce que ça aussi, c'est un peu le buzzword. En ce qui concerne Kerus, on va vraiment les accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, très tôt en amont, par exemple, sur la partie conseil, cadrage, structuration, idéation. Et puis, finalement, on va être un accélérateur de leur transformation, à la fois sur des sujets data, qui sont nos cœurs de métier à l'origine. On est un pur player de la data. Et sur des métiers digitaux, avec le tout avec un fort ADN innovation qui est la Kerus. Donc en fait, on peut vraiment accompagner nos clients sur l'ensemble de la chaîne de valeur.
D'accord.
Bon, on y va déjà un peu plus clair.
Oui.
D'autres questions, suggestions?
Oui,
Christine,
j'ai quelques petites questions dans mon sac à main. La première, c'était combien vous avez de collaborateurs chez Kerus et combien vous avez de femmes, si on peut les appeler peut-être les kérusiennes, parce qu'on sait que les ESN ne sont pas forcément très ouvertes aux femmes, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais je voulais savoir à peu près le pourcentage chez vous.
Alors on est 1000 collaborateurs à peu près en France, on est 3000 dans le monde, hein. On est présent sur une vingtaine de pays, donc on est à peu près 3000 dans le monde, et on a à peu près 30 à 35% de femmes dans nos métiers.
D'accord. Et alors justement, pour la journée du 17 avril qui arrive, hein, puisque c'est la journée maintenant de la femme digitale, qu'est-ce que vous allez faire?
Alors écoutez, je fais complètement confiance au service communication et marketing en fait chez nous qui organise beaucoup de choses là-dessus. En fait, on a plusieurs inputs, si vous voulez, pour vraiment acculturer, faire connaître ces métiers, démocratiser le métier du numérique auprès des femmes, mais pas seulement, auprès de tous les publics, parce que le numérique, ce sont encore des métiers qui sont très flous. Je travaille dans le numérique, dans le digital, ok, mais quoi encore? C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais ta journée? Et il y a une palette en fait de métiers qui est vraiment extrêmement large. Donc effectivement, il faut féminiser, mais pas que, ces métiers et les faire connaître. Donc on a beaucoup de collaboratrices qui, par exemple, vont pitcher dans les écoles, auprès des collégiennes, parce qu'il faut commencer très tôt, auprès des collégiennes, bien auprès sûr, des lycéennes, leur quotidien, leur métier, les voies, les études, les voies de carrière, les projections qu'on peut faire. Et voilà, qu'est-ce qu'être une femme dans le numérique aujourd'hui?
Alors c'est vrai que ceux qui sont aujourd'hui en place, qui ont 23, 24 ans, il y a 10 ans, c'était un peu des geeks, hein, si j'ose dire. Et il y avait effectivement plus de garçons que de filles.
Il y a moins de geekettes.
Est-ce que c'est en train d'évoluer?
Oui, c'est en train d'évoluer. Alors, c'est vrai que c'est traditionnellement voilà, les littéraires chez les filles et les ingénieurs chez les garçons. Ça, je crois qu'on est encore. On n'est pas sorti là-dessus. Mais c'est vrai que ça commence, oui, ça commence très tôt. Ça commence à l'acculturation auprès des collégiens, notamment, pour leur expliquer ce que sont ces métiers. Ça commence par des questions très simples. Aujourd'hui, quand on demande, vous demandez à un collégien ou même à quelqu'un de plus jeune, à un enfant, qu'est-ce que fait ton papa ou ta maman? Il va vous dire, il travaille dans telle société. C'est pas un métier, ça. Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Quel est son métier? Et c'est comme ça qu'on fait connaître, en fait, des métiers. Si vous dites aujourd'hui, dit je suis ingénieur business intelligence, ingénieur cloud. Oui, mais ok, concrètement, quel est le quotidien et qu'est-ce que ça représente dans une société et dans une carrière de façon générale?
Donc, vous faites du lobbying quasiment dès le collège?
Il faut, parce qu'il faut faire connaître effectivement ces métiers. Donc, ça commence très tôt. C'est pas une fois qu'on est diplômé, en général, qu'on se dit au fait, qu'est-ce que je fais? Ça peut arriver, mais bon, le but, c'est aussi d'aiguiller et de faire connaître les études qui mettent à ces métiers, en fait.
C'est vrai que vous les mettez très en avant, hein, notamment sur votre site, puisqu'il y a des vrais gens qui incarnent leur fonction et qui racontent exactement leur quotidien. Donc ça, c'est extrêmement intéressant.
Là, on va essayer de parler du quotidien de demain, puisqu'on va retrouver au téléphone, on vous rappellera au 0826 300 300, avec notre partenaire Lidl, notre premier auditeur de la soirée, qui se pose des questions et qui nous en pose une. Écoutez.
Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera.
Et oui, il nous a appelé au 0826 300 300, il s'appelle Jean-Luc et il nous demande un conseil.
Oui, bonjour, c'est Jean-Luc de Tarbes. Je cherche un emploi dans la com. J'ai déjà eu un premier entretien avec un employeur potentiel et il m'a demandé pour la semaine prochaine de lui faire un document de présentation pour un lancement de produit de l'un de ses clients. J'ai un peu l'impression de me faire exploiter en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Au revoir.
Oui, ça, c'est vrai, Jean-Luc, effectivement. S'ils sont en train de recruter 30 personnes, ils demandent 30 recos, 30 idées à 30 personnes différentes.
Oui, après, hop, ils disent non au candidat.
On ne sait jamais.
Non, alors ça, c'est le côté un peu le verre vide et le verre plein. Mais c'est basiquement ce qu'on appelle finalement un cas pratique. C'est-à-dire que vous êtes journaliste, on vous demande d'écrire un article. Vous êtes traducteur, on vous demande une traduction. Vous travaillez dans l'univers du marketing et de la communication. C'est vrai que c'est assez courant qu'on demande de faire une recommandation, un plan de com pour un lancement de produit ou des choses comme ça. En fait, c'est pour voir le savoir-faire, voir si vous avez une réelle vision stratégique, si vous êtes créatif. Donc, il faut le faire. Alors après, évidemment, il ne faut pas faire 14 pages ou écrire un livre si on est un peu angoissé et qu'on se dit « ils vont m'exploiter ». Et puis encore une fois, même si c'est le cas, ça veut dire que vous aurez une très bonne idée et puis vous en aurez d'autres. Mais ça arrive quand même très très rarement. L'idée, c'est vraiment de voir comment le candidat réfléchit, comment il raisonne, comment il réagit, comment il fait une présentation à l'oral aussi, parce qu'on oublie souvent, quand on demande d'écrire une recommandation, en général, on présente après à l'oral. Donc, la forme et le fond, plus cette aisance-là, est évidemment extrêmement importante dans cet univers de communication. Vous faites ça, Valérie, quand...
Oui, alors on a un service marketing et communication, et effectivement, c'est le cas pratique, c'est typique de ce type de métier. Après, ça a un intérêt aussi quand même pour le candidat, c'est que ça lui permet de travailler, de voir typiquement vraiment... dans l'exercice, les livrables qu'il va avoir à faire après. Puisque souvent, on va les faire travailler, alors encore une fois, toute proportion gardée, sur des vrais sujets qu'ils pourront avoir à traiter après dans l'entreprise. Donc ça leur permet aussi de voir si finalement ça leur plaît déjà et s'ils se projettent sur le sujet. Après, il y a deux cas de figure. Soit dans le cas de l'auditeur, on vous le demande en amont, donc vous avez le temps de produire le livrable. Et c'est vrai que là, on sera d'autant plus exigeant que vous avez eu le temps de le faire en amont. Soit on vous demande de le faire en live. Donc ça peut être soit effectivement un plan de com, ça peut être une correction d'exercice, ça peut être une création, enfin peu importe. Ce qu'on va regarder, c'est bien entendu le livrable final, mais c'est aussi le raisonnement et la compréhension que vous avez du besoin et du brief en fait de votre client.
Oui, d'où l'importance aussi du vocabulaire, de parler par exemple de points de notoriété, de faire un plan média avec des réseaux sociaux, de mettre le digital, de mettre pourquoi pas des médias plus classiques, etc. C'est pas de l'exploitation, hein, c'est très 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 courant et effectivement on le fait souvent sur place et là ça va durer 30 minutes, donc il faut faire une trame en fait, on fait pas non plus une dissertation, hein, mais une trame avec des
idées
bien...
Ça dépend, si c'est un projet événementiel, ça peut prendre plusieurs pages et surtout au moins 3 ou 4 jours de boulot. Alors cela dit, Jean-Luc, si vous voulez être rassuré, il y a un petit truc aussi, c'est de déposer votre projet à la SCAM, S-C-A-M, c'est la Société Civile des Auteurs Multimédia, ça va vous coûter 2,50€ ou un truc comme ça, ou envoyer ce qu'on appelle une enveloppe solo, et puis vous la déposez en temps et en heure, et puis si jamais après vous voyez que votre projet à 500 000€ est exploité par l'agence, ben là vous pouvez dire, dites donc, j'avais déposé l'idée.
Et j'allais dire, l'avantage c'est que s'il n'est pas recruté, tant mieux, parce ça veut dire que c'est pas forcément le poste rêvé.
Absolument. Jean-Luc, vous nous tenez au courant hein, pour voir si ça s'est bien passé, comme d'habitude, au 0826 300 300, alors qu'à 19h15 sur Sud Radio, il est temps de découvrir, ou plutôt de voir un petit peu ce que nous a révélé tout à l'heure notre camarade Jean-Marie Bordry.
Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste.
Alors, ce bon poste, on peut le dire, hein, parce que oui. Marie Lajali, c'est le coach de chatbot. Alors, ça continue, il va falloir mettre des sous-titres.
Oui.
Kezako.
Non, alors, la traduction, déjà, le bot, en fait, c'est pour dire robot. Mm-hmm. Chat, c'est la conversation. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle les agents conversationnels. Alors, je vous donne un exemple précis. C'est Alexa, Siri, OK, Google, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Voilà. Donc, c'est formidable. Ça marche bien, mais pas toujours. Il y en a de plus en plus, hein, parce qu'évidemment, on est en plein dans la quatrième révolution industrielle. Donc, toutes les entreprises utilisent ça, même quand vous achetez des choses, vous discutez pour trouver une table, etc. D'ailleurs, le dernier qui est sorti ce matin, alors je vous le dis parce qu'il s'appelle Ami. AMI, c'est l'assistant de la messagerie des impôts. Donc vous imaginez, bonjour, pourquoi je paye autant d'impôts? Je ne comprends pas votre question.
Il s'appelle Ami. Pourquoi je donne des
Voilà, sous. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouvais ça assez drôle. Donc l'idée de cette fonction-là, et on recrute beaucoup, c'est de former en fait ces agents conversationnels. Donc ça veut dire, c'est un peu comme les enfants, il faut leur apprendre des termes, des subtilités aussi par rapport à la langue française. Nourrir un peu le robot, entre guillemets, par rapport justement à des remarques qui ont été faites sur des sites ou par des clients, par exemple. Donc, il faut adapter l'outil, il faut l'entraîner, le faire progresser, il faut analyser les conversations, il faut améliorer la compréhension, corriger des erreurs, enseigner des nouveaux mots, j'en perds les miens, et consulter des listes de phrases non comprises et les catégoriser. Donc, c'est vraiment un très, très gros boulot, d'autant que même, maintenant, il y a des entretiens de recrutement qui se font aussi avec des robots, enfin ces fameux robots. Donc c'est un vrai métier aujourd'hui. Il n'y a pas de formation vraiment spécialisée, mais il vaut mieux avoir un diplôme plutôt Bac plus 3 informatique, on va dire. Et la rémunération est quand même entre 2500 et 4000 euros.
D'où,
vous imaginez, bah oui, l'importance de la fonction, parce que c'est vrai que sortie de Alexa, il fait beau demain, ou est-ce normal que mon chat perde ses poils? Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire.
Valérie Sablé, est-ce que chez vous, chez Kyrus, vous utilisez ce type de système pour vos clients? Est-ce que vous mettez en place des robots virtuels?
Oui, et alors typiquement, derrière en fait ces petits robots virtuels, il y a énormément de métiers. C'est-à-dire qu'en amont, il y a justement un besoin conseil, un besoin d'un client. Voilà, quel est le besoin de ce bot? C'est répondre à un particulier, c'est répondre à une entreprise, c'est de l'interne. Enfin voilà, déjà il y a une définition de besoin, donc conseil. Et puis après, il y a de la data dedans pour effectivement entraîner le robot à reconnaître et à bien apporter les bonnes réponses. Et puis il y a aussi du digital et il y a aussi du design, parce qu'il faut que ce robot, bah, ami, le petit robot des impôts, oui. Il n'a pas été pensé, le petit nom n'a pas été pensé par hasard.
C'est
donc
vrai.
Tout ça, ça se réfléchit. Il faut qu'il soit designé aussi quand il apparaît en pop-up dans votre écran. Il faut que vous ayez envie de lui parler, hein, donc c'est bien pensé pour normalement. Donc oui, chez Kyrus, typiquement, on peut accompagner tout ce besoin depuis la définition jusqu'à la mise en production, en fait.
Très bien. Bah, écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur le coach de chatbot, et si ça vous botte, et bah, sachez qu'on gagne quelques sous entre 2500 et 4000 euros.
Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix.
La bonne voie pour la retrouver à 19h19 sur Sud Radio, eh bien, c'est prendre la direction du standard, 0826 300 300, pour y retrouver Gabriel.
Bonjour, c'est Gabriel de Rungis, je suis développeur au service cloud d'une grande entreprise française et je réfléchis à passer de salarié classique à salarié remote. Vous pensez que c'est une bonne idée? Merci, à bientôt.
Alors, moi, j'en pense pas grand-chose, parce que déjà, salarié remote...
Remote, contrôle. Je vous fais la traduction sans Brian. Merci. Remote, ça veut dire isolé. Alors, en fait, c'est un mode de travail qui est assez peu connu, mais qui existe depuis très longtemps, parce qu'on entend beaucoup parler, évidemment, du télétravail. Alors, il y a le télétravail partiel, il y a le 100% télétravail, il y a le digital nomade, etc. Alors, ce sont des postes de salariés, hein, c'est pas freelance, effectivement. Alors, travailler en remote, ça veut dire que vous avez une vie de bureau sans bureau. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'obligation d'aller, par exemple, au siège de l'entreprise un jour par semaine, ou parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent des salariés en remote qui n'ont même pas de bureau. Donc, il y a deux intérêts. L'intérêt pour le salarié, c'est qu'il travaille d'où il veut, quand il veut. en fait. Et l'intérêt pour l'entreprise, c'est que ça ouvre un peu le champ des possibles par rapport au recrutement au niveau géographique, par exemple, voire à l'international. Après, il faut gérer les décalages horaires, etc. Mais c'est vraiment ça. Donc après, il faut quand même faire attention. Il faut avoir les épaules pour, parce que il n'y a pas d'interaction sociale, il n'y a pas de collègues, il n'y a pas d'endroit où aller. Alors peut-être travailler en coworking, s'organiser, avoir un juste équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Moi, j'allais dire, le seul conseil, c'est l'autodiscipline, parce que vous pouvez tomber ou dans la procrastination totale, ou à l'inverse, dans travailler trop parce que vous culpabilisez un peu. Valérie, est-ce que vous avez, vous, des salariés qui travaillent en remote chez vous ?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, derrière le remote de télétravail, en fait, il y a énormément de choses. C'est-à-dire que la France a un peu découvert le télétravail l'année dernière, a subi et n'a pas eu le choix. En revanche, le télétravail, le remote, ça existe depuis des années. Il y a des accords télétravail dans la plupart des entreprises. Donc, il faut distinguer le salarié qui est en remote full-time, qui est plein temps, qui ne vient au bureau qu'une ou deux fois par semaine, donc qui a un remote partiel. Il y a plein de configurations possibles. Dans tous les cas, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit quelque chose qui soit choisi, et par le salarié et par l'entreprise. C'est-à-dire imposer à un salarié d'être en remote, c'est pas non plus l'objectif. Il faut que le métier s'y prête et il faut que le contexte s'y prête. C'est toujours la même distinction entre distanciation physique et distanciation sociale, en fait. Donc vous pouvez être loin et être quand même embarqué dans une équipe. Donc ça se prête pas à tous les métiers, ça se prête pas à tout le monde non plus. Et il faut, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit quelque chose qui soit choisi de la part des deux parties. Et effectivement, le remote entre quelqu'un qui va faire une ou deux journées chez lui, chez elle, une ou deux fois par semaine, et l'image d'Épinal du travailleur en remote à Bali qui travaille en décalage horaire, chaîne entre les deux, elle est vraiment énorme. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Et là, là-dessus, les entreprises ont ouvert vraiment leur chakra, on va dire, là-dessus.
Peut-être démarrer d'abord par un télétravail partiel, à mon avis, pour s'adapter, parce que c'est pas une évidence
d'être seul. C'est pas facile. Il faut, comme le disait tout à l'heure Christine, avoir les épaules pour s'auto-gérer, si j'ose dire.
Oui.
C'est vrai qu'il y a des métiers quand même qui sont très favorisés par rapport à ça, qui ont été les premiers à faire du remote. Je pense aux traducteurs. Énormément de traducteurs, dès que l'Internet est arrivé, ont travaillé, comme on le disait, à Bali, pour traduire du Sri Lankais au russe ou du machin. Et dans la boîte de traduction à Paris, j'ai un mec qui a monté ça il y a 20 ans, il y avait 4 personnes. Par contre, il avait 80 freelance qui travaillaient pour lui à travers le monde. Mais il y a aussi des métiers de graphiste, par exemple. Un graphiste, il est mis à être bien tranquille pendant qu'il fait son boulot, etc. Mais d'autres métiers, c'est quand même plus compliqué, surtout lorsqu'il y a des interactions et des collègues.
Oui, et il faut que ça s'adapte. C'est vrai que il faut que ça s'adapte à votre client. Le graphiste, effectivement, potentiellement, il peut travailler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit s'il veut. Enfin, il a quand même des échéances, comme tout le monde, à remplir. Tout dépend aussi si vous avez une équipe en tant que manager ou en tant que manager, du reste, vous avez peut-être besoin aussi d'un suivi de proximité. Donc, le télétravail là-dessus, c'est quand même pas toujours très simple à gérer. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut que ça fonctionne, en fait, des deux parties. Tous les métiers ne s'y prêtent pas et tous les gens n'ont pas forcément envie. C'est pas forcément une image d'Épinal et c'est pas forcément un Graal pour tout le monde. Donc, effectivement, il faut tester, il faut savoir dire si ça fonctionne pas, d'un côté, en fait, comme de l'autre, et peut-être y revenir.
Valérie Sablé, à 19h23 et 30 secondes sur Sud Radio. Une tradition. On ouvre non pas la boîte de Pandore, mais la boîte à job.
Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job.
Alors, avec notre partenaire Lidl, ouvrons cette boîte à job et découvrons d'ailleurs un job proposé par Lidl.
Oui, j'aime bien quand vous dites Lidl. Alors, c'est un poste d'opérateur logistique à temps complet à Bordeaux, Cestas. Donc, intégré à l'équipe sur l'une des plateformes logistiques, la personne va participer à l'ensemble des activités de préparation des commandes de produits émises dans les supermarchés. Donc, vous connaissez maintenant par cœur, assurer la réception, le stockage des marchandises, rassembler, conditionner l'ensemble des produits correspondant aux bons de commande. Oui, il ne faut pas se tromper. Effectuer l'expédition des commandes. Il faut quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle ou qui a un petit peu d'expérience, pas de diplôme ou d'expérience requise. C'est un CDI avec une rémunération sur 13 mois. Il y a différentes primes qui sont liées au poste et des primes d'ancienneté au bout de 3 ans. Et la rémunération est de 1 737 € par mois. Après 6 mois, on est à 1 841 €.
Quelle précision.
Et allez sur le site de Lidl parce qu'aujourd'hui, on bat un peu les records puisqu'il y a 2013 offres d'emploi.
à travers, bien sûr, toute la France. Celle-ci, cette annonce concerne, on l'a dit, Bordeaux-Cestas.
Oui, absolument.
Autre petite annonce dans la boîte à job.
Oui, alors une annonce d'animateur ou animatrice numérique, ça tombe bien, chez Emmaüs Connect à Lyon. Donc Emmaüs Connect agit depuis 2013 pour que le numérique justement profite aussi à ceux qui en ont le plus besoin, les personnes en précarité. Donc il faut animer, organiser des sessions d'accompagnement pédagogique, bonne organisation logistique de sessions, encadrer, animer tout ça, réaliser le suivi administratif, autant quantitatif que qualitatif, l'évaluation des interventions. Donc on est sur un CDI, 35 heures, et c'est sur le site Fuyons la Défense avec une rémunération de plus de 2 800 €.
Très bien. Petite troisième.
Oh, une petite troisième. Ah oui, un stage, parce qu'en ce moment, on est à fond, les ballons. Stage et bientôt alternance. Un stage de 6 mois comme média analyste avec un CDI à la clé chez Admo Télé à Paris, leader de l'analytique télé en Europe, qui propose aux marques et agences médias une solution SOAS, j'adore l'anglais, dédié au monitoring à la mesure et à l'amplification digitale des campagnes télé. Donc la mission, la mise en place technique des opérations, l'accompagnement. Il faut une école de commerce avec expérience web, média et analyse de données. Vous allez sur le site Admo TV et c'est un stage. Donc rémunération stage, convention de stage.
Ça se négocie. Si on bosse bien, voilà. On a une plus grosse rémunération que
oui,
si
et puis, y a toujours
on
un CDI
trop souvent à la
possible,
machine à café.
Hein.
Très bien. Valérie Sablé, du côté de chez Kairos, qu'est-ce que vous recherchez en ce moment comme emploi ?
Alors, on va recruter, nous, essentiellement, effectivement, des ingénieurs tout niveau, des profils, donc on parlait de la data tout à l'heure, donc des profils cloud, des profils BI, big data, data science. On va recruter aussi côté conseil, donc des gens qui vont accompagner les directions métiers, les directions financières, RH, marketing, pour justement définir leurs besoins. Et puis, plus côté digital, on va aussi bien trouver des profils de chef de projet que des profils de designer, du X-designer, par exemple, des développeurs, .NET, Java, etc. La palette est très large de nos métiers.
L'adresse internet pour retrouver toutes ces annonces ?
Kairos.fr, jobskairos.fr, et vous allez tomber sur notre nouveau site carrière en plus.
Kairos, K-E-Y-R-U-S.
Oui.
Pour être bien sûr de retrouver le site. Merci Valérie Sablé d'avoir été avec nous dans ces voies de l'emploi de ce mardi. On se dit à la semaine prochaine, chère Christine.
Oui, on verra.
Eh bien, oui. Réfléchissez. Jamel, lui sera là derrière les manettes. Il n'y a pas de souci. Très bonne fin de soirée à tous sur Sud Radio. Il est temps de retrouver Jean-Marie Bordry dans quelques instants.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi.
Avec la participation de Lidl.
Allez, à mardi prochain, les voix de l'emploi. On rappelle le numéro de téléphone, Christine Biet.
0826 300 300.
C'est le numéro auquel vous laissez vos messages sur vos questions qui concernent votre carrière professionnelle, par exemple vos possibilités d'embauche. Et Christine Biet, Yves de Risbourg, vous répondront dans les voix de l'emploi à partir de mardi, de 19h à 19h30. La suite, tout de suite, des vraies voix qui font bouger la France. Parlons vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier qui reçoit un entrepreneur et même une légende d'ailleurs, Monsieur Picard, le fondateur de Solar Impulse. Bon. C'est sur Sud Radio. Ah ben non, et c'est sur Bismarck, à tout de suite.